Au sommaire de ce journal, l'Iran condamne le communiqué arabo-japonais sur les îles iraniennes du Golfe Persique. Esclavage moderne pratiqué par le gouvernement canadien, Téhéran dénonce. Et puis les condamnations affluent suite au dépouillement forcé par Israël de 5 femmes palestiniennes. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères félicite le Brésil à l'occasion de la fête nationale. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a félicité son homologue brésilien à l'occasion de la fête nationale du pays latino-américain. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir Abdollahian, dans un message adressé à son homologue brésilien, Mauro Vieira, et publié sur le réseau social X, a félicité le pays latino-américain à l'occasion de la fête nationale et a exprimé l'espoir que, compte tenu de la position particulière du Brésil dans le groupe des BRICS et de l'appartenance de la République islamique d'Iran à ce groupe, les relations de longue date entre Téhéran et Brasilia se développeront davantage dans tous les domaines politiques et commerciaux. Les relations entre Téhéran et Brasilia ont 117 ans d'histoire et l'Iran a été le premier pays à rouvrir son ambassade dans la nouvelle capitale du Brésil, Brasilia, en 1960. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a rejeté une déclaration conjointe du Japon et de certains pays arabes concernant la souveraineté de l'Iran sur 3 îles du Golfe Persique. Il faisait référence à une déclaration publiée à la fin de la 3e session de la réunion ministérielle du dialogue politique arabo-japonais au Caire en Égypte. La déclaration appelle à des pourparlers entre l'Iran et les Émirats arabes unis sur la souveraineté sur les 3 îles du Golfe Persique, à savoir Abu Moussa, les Grands et Petites Tombes. Le diplomate iranien a déclaré qu'une partie de la déclaration n'avait aucune valeur politique ni juridique. Il a rejeté la déclaration, la qualifiant de violation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et du respect de leur intégrité territoriale. Téhéran a rejeté à plusieurs reprises les revendications des Émirats arabes unis sur les îles, affirmant qu'elles constituaient historiquement une partie inséparable de l'Iran et qu'elles le resteraient à jamais. Les 3 îles du Golfe Persique, Abu Moussa, la Grande et la Petite Tombe, font historiquement partie de l'Iran, comme en témoignent d'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et ailleurs dans le monde. Cependant, les Émirats arabes unis ont revendiqué ces îles à plusieurs reprises. Les îles tombèrent sous contrôle britannique en 1921, mais le 30 novembre 1971, un jour après le départ des forces britanniques de la région et 2 jours seulement avant que les Émirats arabes unis ne deviennent une fédération officielle, la souveraineté de l'Iran sur les îles fut restaurée. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme que le fléau de l'esclavage continue d'imprégner les politiques du gouvernement canadien sous des formes modernes. Nasser Kanani a déclaré que la récente déclaration accablante du rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage révèle la véritable nature des politiques discriminatoires d'Ottawa en matière des droits de l'homme. L'expert de l'ONU, Tomoya Obokata, a publié une déclaration plus tôt cette semaine à l'issue d'une visite de 14 jours au Canada. Il a déclaré que les programmes de travailleurs étrangers temporaires du Canada constituent un terrain fertile pour les formes contemporaines d'esclavage. Obokata s'est dit profondément troublé par les récits d'exploitation et d'abus que lui ont fait part des travailleurs migrants. Il s'est également dit très préoccupé par le nombre de femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, souvent à la suite d'un trafic à des fins de travail forcé ou d'exploitation sexuelle. L'ambassadeur et le représentant permanent d'Iran auprès de l'ONU a appelé à une enquête impartiale les professionnels sur les incidents chimiques en Syrie. Amir Saidi Ravani, a fait ses remarques lors d'un briefing du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a réitéré que l'intégrité et la crédibilité de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dépendent de sa capacité à maintenir sa neutralité et son objectivité, guidée uniquement par des considérations scientifiques et techniques. Le diplomate iranien a exprimé son plein soutien au dialogue constructif entre la Syrie et l'OIAC, fixant un calendrier pour résoudre les problèmes restants et mener le dossier à une clôture définitive et tangible. La Syrie a nié à plusieurs reprises les allégations occidentales selon lesquelles elle aurait utilisé des armes chimiques pendant la guerre soutenue par l'étranger dans le pays. Damas affirme avoir remis tous ses stocks dans le cadre d'un accord négocié au niveau international en 2013. Un tribunal français de premier plan a soutenu l'interdiction imposée par le gouvernement aux étudiants musulmans de porter des abayas, les vêtements de dessus traditionnels portés par certaines femmes musulmanes. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction française chargée des plaintes contre les autorités gouvernementales, a jugé que l'interdiction scolaire des abayas était légale. Cette décision fait suite à une requête d'une association musulmane demandant une injonction contre l'interdiction décrétée par le gouvernement le mois dernier. Le tribunal soutient que l'interdiction n'était pas discriminatoire à l'égard des musulmans. Pour les détracteurs, l'interdiction viole le principe de la liberté civile et est discriminatoire à l'égard des musulmans. Il affirme également que l'interdiction pourrait créer un risque élevé de discrimination. Mais les autorités françaises affirment que ce vêtement viole les lois laïques du pays en matière d'éducation. Les écoles ont renvoyé des dizaines de filles chez elles pour avoir refusé de retirer leurs abayas le premier jour d'école. Il est également interdit aux filles musulmanes des écoles françaises de porter le foulard islamique. Les condamnations affluent suite au dépouillement forcé par Israël de 5 femmes palestiniennes lors d'un raid en juillet en Cisjordanie occupée. Des dizaines de législateurs jordaniens ont dénoncé ces décisions offensives, appelant à l'expulsion de l'ambassadeur israélien à Amman. Les législateurs ont également exhorté le gouvernement à rappeler son envoyé de Tel Aviv. Ils ont appelé les autres parlements du monde entier à prendre des mesures concrètes contre les crimes contre l'humanité du régime. Les députés jordaniens ont souligné que les abus infligés aux femmes palestiniennes par les forces israéliennes témoignent de la décadence morale du régime. Les Nations unies ont également appelé à un examen approfondi de la violation israélienne. De plus, l'Organisation de la coopération islamique a exhorté les organismes internationaux à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ces violations quotidiennes des droits de l'homme en Palestine. La colère bouillonne depuis lundi, lorsque les médias israéliens ont rapporté que des soldats avaient forcé 5 femmes palestiniennes dans la ville d'Al-Khalil à se déshabiller, et cela devant leurs enfants. Les investissements directs étrangers en Israël ont diminué de 60% au premier trimestre 2023 par rapport à la moyenne trimestrielle de ces dernières années. C'est ce que révèle un nouveau rapport publié par le ministère des Finances du régime. Le rapport indique que le nombre d'accords d'investissement et d'investisseurs israéliens a également diminué d'un tiers au cours de la même période. Le ministère a attribué ces baisses aux incertitudes mondiales et locales. Cependant, les analystes ont imputé le ralentissement financier du régime aux troubles politiques et sociaux sans précédent de cette année provoqués par le soi-disant plan de réforme judiciaire du cabinet d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. La junte au pouvoir au Gabon a nommé l'ancien chef de l'opposition, Raymond Ndongo Sima, au poste de premier ministre de son gouvernement de transition. La nomination a été faite par décret du général Brice Oligui Nguema, qui a prêté serment en tant que président intérimaire lundi. Sima a été premier ministre du président déchu Ali Bongo du 2012 au 2014. Il a ensuite démissionné et s'est opposé à M. Bongo lors des élections de 2016, puis à nouveau au début de cette année. L'armée gabonaise a pris le pouvoir le 30 août. Cette prise de pouvoir a eu lieu peu de temps après que M. Bongo et été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle malgré les plaintes de l'opposition pour fraude. Après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, le Gabon est la dernière des anciennes colonies françaises d'Afrique à subir un coup d'État ces dernières années. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien MBS sont deux outils en main de Netanyahou, selon un journaliste américain. Thomas Friedman, célèbre éditorialiste du journal américain des New York Times, a publié mardi une tribune implorant le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman de ne pas devenir les idiots utiles du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en acceptant un accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, tant que Netanyahou et sa coalition d'extrême droite sont au pouvoir en Israël. Vous ne pouvez pas mettre en place une normalisation des relations avec un gouvernement israélien qui n'est pas normal. Il ne sera jamais un allié stable des États-Unis ou un partenaire de l'Arabie saoudite, a-t-il écrit dans sa tribune. L'éditorialiste américain soutient que Benjamin Netanyahou essaie d'amadouer les États-Unis en tentant un coup par lequel il saperait en même temps le pouvoir de la Cour suprême d'Israël et parviendrait à un accord avec l'Arabie saoudite tout en se contentant de gestes de façade envers les Palestiniens et en poursuivant l'annexion de la Cisjordanie. Pour couronner le tout, le premier ministre israélien obtiendrait, par le biais de cet accord, que l'Arabie saoudite paie pour cela et que Joe Biden le bénisse, a poursuivi Thomas Friedman, pour qui cet accord doit être rejeté d'emblée par Biden et MBS. L'accord sur lequel il devrait insister pourrait stipuler qu'en échange de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, la partie israélienne doit arrêter toute construction de colonies en Cisjordanie, dans les zones réservées à un État palestinien. Si celui-ci peut un jour être négocié, ne peut pas légaliser d'autres colonies israéliennes illégales et insister pour qu'Israël transfère des territoires de la zone C de la Cisjordanie, tel que défini par les accords d'Oslo vers les zones B et A sous le contrôle palestinien, a poursuivi l'éditorialiste du New York Times. En outre, Thomas Friedman a déclaré que Netanyahou a modifié unilatéralement les principes des relations entre les États-Unis et Israël et a mis à l'épreuve les Israéliens. Il est temps que les États-Unis mettent son gouvernement à l'épreuve en lui proposant un choix clair, l'annexion ou la normalisation, ajoutait le journaliste américain qui a conclu sa tribune en appelant Washington et Riyad à dire tout simplement non. Plus tôt, Ben Kaspit, journaliste et expert israélien, a déclaré vendredi 1er septembre au site web américain Al Monitor que les canaux de communication entre Tel Aviv et Washington étaient considérablement perturbés. Selon lui, l'une des raisons importantes de ce fait était l'interdiction de rencontres entre les autorités israéliennes et les hauts responsables américains. Malgré tous les obstacles à la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, les autorités sionistes prétendent que les deux parties étaient sur le point de parvenir à un accord. À cet égard, les sources d'information israéliennes ont rapporté que les hauts responsables des services de sécurité du régime israélien avaient discuté des conséquences sécuritaires d'un éventuel accord de normalisation avec l'Arabie saoudite lors d'une réunion confidentielle. Dans son droit fil, une source bien informée a rapporté que Benjamin Netanyahou considérait la sécurité du régime israélien comme étant plus importante que la normalisation des relations avec Riyad, estimant que cet accord serait signé entre l'Arabie saoudite et Israël. Ceci intervient alors que le journal Ma'ariv a rapporté le 10 août que pour les responsables israéliens, les contacts entre les États-Unis et l'Arabie saoudite concernant la normalisation de relations entre Riyad et Tel Aviv étaient insuffisants.